La nature a lâché l'épais manteau blanc de l'hiver pour revêtir une coquette robe verte de printemps.
Les oiseaux gazouillent, les écureuils intrépides se dégourdissent dans les arbres et égayent la A747.
Les habitants sont guillerés et ne se lassent pas de regarder les brins d'herbe se glisser entre les failles bitumineuses de l'autoroute qui n'en est plus une.
Aujourd'hui, le soleil se lèvera à 7h38 et se couchera à 8h14.
Nous fêterons les Habib et les Louham.
Les températures oscilleront entre 9 degrés et 22 degrés.
Nous sommes le mardi 28 mars 2012.
C'est normal, c'est la matinale.
C'est l'heure de la matinale.
Super, là faut aller à pied.
C'est le moment de notre rubrique bisous bisous, puisqu'avec l'inaction, le rythme lent de la A747, eh bien, le nombre de naissances s'est multiplié ces derniers temps.
La petite Louise est née cette nuit. Le jeune couple 306 bleu est aux anges. Rendez-vous vendredi soir au grand chêne du kilomètre 165. Un méchoui sera organisé avec la participation amicale d'un éleveur qui fournira l'agneau.
On nous signale aussi la naissance de Gaspard au kilomètre 532.
De Naomi au kilomètre 812.
De Jacques au kilomètre 614.
De Jean-Talu au kilomètre 35.
De Cosse Brillante au kilomètre 214.
Et de Carbuzélé au kilomètre 388.
Bonjour à toutes et à tous, habitants et habitantes de la A747. Nous sommes ce matin en ligne avec monsieur Sim Catalbo au kilomètre 453. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez, vous avez une information à nous faire passer sur Radio Grésivaudan.
Voilà, je vous le cache pas, je suis assez inquiet ce matin.
Oui.
Il y a un type étrange qui a débarqué d'on ne sait où. Il a une mine horrible, vraiment, il est pas bien net, il m'a fait peur ce con là. Depuis je me suis renseigné, personne ne le connaît. On a essayé de savoir ce qu'il voulait, mais il parle une drôle de langue, un mélange d'italien et de français. C'est pas très clair, on n'y comprend rien en fait.
Vous savez ce qu'il voulait?
Eh ben pas trop. Comme il a vu qu'on se méfiait, il a fini par partir, mais bon, faites attention, hein, il regarde partout, sous les voitures. Il fait même des croix sur le bitume avec le fer de sa béquille. Ouais, parce que il a une béquille, le gars là. Voilà.
Bonjour.
Une voiture blanche.
Bonjour. Je vais au rond-point d'après.
Une voiture Bordeaux.
C'est normal.
Je vais à l'entrée de Croll.
Un moment de solitude.
Et une autre voiture blanche.
Oh non, c'est pas vrai, c'est tout bouché.
Finalement, il faudra un vrai embouteillage.
Oh non, mais c'est pas possible, ouais, d'accord. De toute façon, depuis qu'ils ont mis en place cette espèce de ralentissement là, à 70 sur le contournement, mais c'est tous les matins. On y a droit tous les matins. Concernant, je sais pas, une gestion de la circulation complètement hallucinante. Oui, j'arrive au rond-point là, je suis désolée, ça bouchonne encore.
Vous êtes jardinier ?
Oui.
C'est normal.
C'est quoi, c'est maraîcher ou c'est jardin individuel ?
Non, non, jardinier. Je travaille chez un patron comme jardinier, c'est-à-dire qu'on fait de l'entretien. Tente de pelouse, taille de haie, voilà, choses comme ça.
Jardin particulier ?
Particulier et des travailler pour des entreprises aussi. Pas mal de personnes âgées qui peuvent plus faire. Et ou des gens qui sont un peu surbookés.
C'est quoi les exigences des clients alors ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ouais, qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Enfin, c'est quoi leurs attentes ?
Il y a des indices, il suffit de regarder leur jardin. Hein.
Ouais,
il y a, quand ça. On arrive, on voit dans quel état le jardin. Hein. Donc, bon, si c'est vraiment... Il y en a qui laissent complètement aller. Il y en a qui ont des jardins, c'est plein de ronces. C'est abominable, quoi. Et puis, on voit aussi la personnalité. C'est marrant, parce qu'on voit la personnalité des gens. Il y a des gens, on se dit tout de suite, oh là là, là c'est des gens, ils vont même pas être capables de me payer un coup à boire.
Et du coup, dans les jardins, quand vous faites les tailles et tout ça, vous récupérez du bois, alors aussi
ou... Oui, oui,
vous
oui.
Vous chauffez...
Je me chauffe au bois, oui.
Ben, merci bien, encore une fois. Et puis, bon jardinage.
À une prochaine.
À une prochaine. Allez, au revoir.
Allez.
Au revoir.
C'est normal, quoi. Tu comprends, c'est la matinale.
Et tout de suite, le rappel à l'appel du titre. Et oui, le rappel à l'appel du titre avec les affaires du moment, on vous le confirme, c'est officiel, au kilomètre 038, monsieur Safran, de ministre, vient d'être renvoyé de l'embouteillage.
Il s'était fait le chantre de l'organisation du marché de l'eau sur la A747, il avait acquis une solide réputation de gestionnaire chevronné du précieux liquide.
Et pourtant, on vient de découvrir qu'il était à la tête d'un important trafic, ce sont des centaines et des centaines de litres d'eau qui auraient été détournés, le coquin.
Pour cette raison, l'unanimité des porte-paroles de chaque borne kilométrique. Il vient d'être déchu de la A747.
Ah, l'eau toujours pose un problème ici sur ce bout d'autoroute. Il suffit que le robinet ne soit plus là pour que soudain, tout se complique.
Et oui, le cours de l'eau qui vient d'atteindre de nouveaux sommets. Ainsi, 25 centilitres d'eau s'échangent contre 25 litres d'essence. L'essence qui, de fait, ne vaut quasiment plus rien aujourd'hui.
Nous essayons toujours sur la matinale de coller à l'actualité de la A747 et nous vous proposons maintenant un reportage sur la place de l'eau dans le Grésivaudan. Pendant une dizaine de minutes, vous serez donc accompagné de Rachel, sourcière au CAUE, le Centre d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Grenoble, ainsi que d'un salarié de ST Electronics qui nous dévoile enfin le secret de l'eau dans cette grande entreprise. Et tout cela ponctué du discours du maire de Villarbonneau à l'occasion de l'ouverture de la maison Bergès. De l'eau en barre, c'est le nom de ce reportage.
C'est normal.
En fait, l'eau, voilà, elle tombe, elle a un chemin superficiel, et à un moment donné, elle rentre, elle pénètre dans le sol, elle va être filtrée par les éléments du sol, elle va rejoindre, en fait, une nappe qui peut s'appeler une nappe d'accompagnement, c'est-à-dire c'est une nappe qui est souterraine, qui va descendre, qui va amener une concentration de d'eau qui sera déjà un peu dans le sol et puis qui va alimenter à ce moment-là la nappe qui se trouve beaucoup beaucoup plus bas. Alors le chemin de l'eau, ça peut être un petit torrent, ça peut être une petite rigole, ça peut être une rivière, peu importe, mais de toute façon on aura toujours en sous-sol cette nappe dans laquelle l'homme puise sa ressource pour boire notamment. Et on aura toujours ce système, voilà, à la fois superficiel, intermédiaire, celui qui est courant, l'eau courante, il y a l'eau stagnante, enfin, et après, il y a cette eau souterraine qui, elle est en mouvement, quoi. Elle capte tout ce qu'il y a sur la terre, quoi. Enfin, je veux dire, les poussières, tout ça. Donc, il y a filtration ou pas filtration de certains éléments.
«
On m'entend là? Allô? Allô, est-ce qu'on m'entend? Bien. Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Député, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers amis. C'est un réel plaisir pour l'équipe municipale et moi-même de vous accueillir ici, à Villarbonneau, pour inaugurer le musée départemental Maison Bergès, maison de la houille blanche. Au milieu du 19e siècle, Villarbonneau était une bourgade agricole de 150 habitants. On y cultivait les céréales et le chanvre. Plusieurs moulins fonctionnaient sur le territoire. Et c'est grâce à l'un d'eux qu'Aristide Bergès a eu sa fabuleuse idée. En 1869, il fait installer une conduite forcée et grâce à elle, son usine à papier est alimentée en électricité par la seule force motrice de l'eau.
L'eau est un élément précieux.
Elle est captée, on a souvent des avaloirs, d'ailleurs on appelle ça des avaloirs, c'est les bouches d'avaloirs, donc souvent ronds ou longitudinaux comme ça. Et puis donc l'eau est concentrée là, elle part dans des tuyaux qui sont dimensionnés, hein, c'est-à-dire qu'on sait exactement, en cas de pluie, il y a une chance d'avoir des pluies très importantes tous les 50 ans ou tous les 100 ans, hein, cinquantenales, centenales, etc. Et donc tout ça c'est compté par les ingénieurs, donc ils disent voilà, il faut qu'on puisse recevoir X mètres cubes par seconde de volume d'eau, parce qu'à partir du moment où on a fait 30 mètres carrés d'imperméabilisation, il faut un tuyau de 300 mm de diamètre. Donc on a tout un système comme ça de technique, donc de collecte de l'eau, c'est des collecteurs, et qui vont aller après, donc si c'est des zones circulées par les véhicules, dans des bassins qui vont être étanches, qui vont déshuiler, décanter l'eau qui sera collectée. Donc ça aussi c'est des équipements. C'est pareil, hein, très lourd. Et puis après, cette eau, elle va pouvoir être, en fait, partir en surverse dans des terrains, naturels. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une période où on est en train de récupérer les coûts partis, c'est-à-dire que l'urbanisme prévoit aujourd'hui, et depuis plusieurs années, des zones de compensation et de... des bassins de compensation, c'est-à-dire qui peuvent être à la fois végétaux et à la fois minéraux, parce qu'il faut, aussi filtrer l'eau.
Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Député, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers amis, nous sommes réunis ici pour inaugurer le musée Bergès. Aristide Bergès, comme vous le savez, a été fortement convaincu dans l'utilisation industrielle de l'énergie hydroélectrique, donc il s'est fait le promoteur. La houille blanche, c'est son nom, sera reprise par la suite et permettra de valoriser de façon particulièrement imagée la force hydraulique présentée comme une matière première d'accès facile, propre et inépuisable, résumant à elle seule les espoirs fondés sur l'industrie du XXe siècle. Les papeteries ayant hélas définitivement cessé leur activité en 2008, la réouverture de ce musée revêt un caractère très particulier.
L'eau est un élément précieux.
C'est normal.
Voilà, Grizzly est en train de partir. Je me retrouve donc tout seul sur l'immense parking de ST Electronique, où nous allons tenter pour la seconde fois de rencontrer quelqu'un qui va enfin peut-être nous livrer le secret de l'eau. Pourquoi ST Electronique a besoin d'eau ? Question à laquelle on n'arrive pas à avoir de réponse pour l'instant.
Bonjour, Yann.
Oui.
Oui.
Je vais vous demander une pièce d'identité.
Voilà, Asphalt Bonnard. Aucune pièce d'identité, hein, c'est normal. Voilà. Voilà, on ne sait jamais.
Moi, je suis
secrétaire
du CE, mais
là,
je travaille en salle blanche.
Vous travaillez en salle blanche.
En traitement thermique.
D'accord.
En basse médicale.
D'accord.
Okay. Alors, ST Crawl travaille essentiellement pour la téléphonie, pour un téléphone Nokia, d'où les problèmes qu'on a en ce moment, parce que Nokia a perdu de vitesse par rapport à ses concurrents. Donc là, on va subir du chômage partiel. Donc à 60%, la fabrication est chargée pour faire de la puce pour le téléphone, la téléphonie essentiellement Nokia. Voilà. Après, il y a différentes technos qui sont développées, mais qui sont pour des technologies plus avancées, qui vont automobile, télévision et ordinateur.
Bon, très bien. Et donc après, alors, l'utilisation de l'eau, l'eau elle intervient à quel moment
L'eau elle intervient à tout moment, refroidissement des machines, nettoyage des plaquettes, parce que on utilise beaucoup de produits chimiques, donc après il faut les nettoyer, donc il y a beaucoup besoin d'eau, quoi. Complètement neutre, pour enlever justement toute incidence chimique qui pourrait modifier tout le processus de nettoyage ou de refroidissement des machines, quoi. Tout ça dans l'infiniment petit, quoi. Faut savoir que nous on a des microscopes assez puissants, pour certaines gravures on a du mal, c'est une machine qui regarde, c'est plus l'œil humain, c'est tellement petit que même l'œil humain ne verrait pas le défaut, quoi.
Et du coup l'eau, une fois qu'elle a nettoyé la machine, elle va où?
Elle repart dans une, je sais pas si vous voyez d'ici, là-bas. Voilà.
Chez Suez là-bas?
Ouais. C'est une centrale qui enlève les contaminants, puis ensuite elle retourne dans l'Isère.
Du coup, si on est dans l'infiniment petit, il arrive à filtrer quand même. Du coup,
pour l'instant, il n'y a jamais eu d'incident. Après, oui, c'est très consommateur d'eau. La construction, la fabrication de puces, c'est l'électricité et d'eau. En tant qu'électricité et eau, c'est la consommation d'une ville, je crois, comme Grenoble, 300 000 habitants. Mais la cheminée, oui, c'est tout enterré, mais c'est des gros tuyaux énormes, quoi.
Qui vont pomper où, en fait?
Bah, ils pompent en face, et je sais qu'une fois, on a eu un accident.
En face, de l'autre côté de la vallée.
Et une fois, on a eu un incident d'approvisionnement, ils avaient détourné l'approvisionnement d'eau de la ville de Crolles. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'arrêter comme ça. Parce que nous, sans refroidissement d'eau, sans eau, l'usine ne tombe pas. Quoi. C'est pas possible. Et puis ça crée des dommages énormes. Quoi. Ça risque d'incendie, d'implosion.
C'est quelque peu perturbé que nous quittons la grande usine blanche de cette entreprise à la pointe des technologies et que nous rejoignons une dernière fois Rachel pour nous présenter un parc qui vient d'être ouvert, le parc Ouagadougou.
Si on regarde la petite goutte d'eau qui tombe du ciel quand elle arrive, en fait elle tombe sur quoi? Elle tombe sur des toits, elle tombe sur des sols imperméables. Donc elle va où? Alors, le projet, il se charge, en fait, de récupérer toute l'eau qui tombe, l'eau pluviale, de la faire venir dans une allée. On se mettra dans la perspective, là, tout à l'heure, dans une grande allée qui récolte tout ça avec un chenal. C'est encore en cours de travaux. Et qui alimente par le bout, donc qui arrive ici, dans la partie en sable, hein, avec les plantes. Donc, là, on a un bassin, ce qui s'appelle le bassin de filtration. Ouais. C'est-à-dire que l'eau, il faut qu'on la filtre parce que dedans, il y a de la poussière. Et puis de la poussière de métaux, quand même, contenue dans l'air.
C'est juste voilà. Des toits. Alors,
ouais, c'est toit et sol, mais piétons, je pense. Ouais. Et donc, qui arrive là, qui est filtré et qui stagne, qui arrive là dans un bassin de réception avec, on le voit, des petites barbacanes, la régulière. Qui permettent, en fait, donc c'est un bassin de réception rétention, c'est-à-dire qu'on garde un volume d'eau pour éviter qu'il se déverse en masse à côté, qui permet de le stocker un petit peu, et puis le trop-plein, eh ben, il passe là dans les petites barbacanes, et il vient dans cette... en fait, c'est un peu comme une rigole, un réceptacle, qui, lui, va desservir progressivement. Si on suit le chemin, là, voilà, c'est tout simple, c'est de la rigole, et qui, du coup, gravitairement... tout est gravitaire, c'est-à-dire voilà, ça descend. Il y a des petites cascades qui permettent aussi de ralentir la vitesse de l'eau. Et puis finalement d'arroser, de pallier au flux d'eau qui risque d'envahir tout l'espace. Et c'est une zone aussi dans laquelle les enfants... ce qui est bien ici, c'est qu'on peut aller partout, en fait. On peut marcher dans les rigoles, on peut marcher dans l'herbe, on peut grimper aux arbres, on peut marcher dans des zones humides, on peut passer à côté aussi. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que finalement, on peut mettre les pieds partout. Parce que aujourd'hui, on se protège de beaucoup de choses, de l'herbe, de la poussière, de la boue. Et que là... À la limite, marcher pieds nus, on a tous les matériaux, on a l'herbe, la terre. C'est très intéressant.
C'est un parc qui fait quoi, 2 hectares, à peu près. Est-ce que c'est 1 hectare?
1 hectare?
Ouais.
Ouais, ça va quand même.
Non, mais c'est pas les mètres carrés, je vous demande.
Ça se pouvait être labouré en une journée par un agriculteur avec des bœufs, quoi.
Il y a longtemps, ouais.
Ouais, voilà.
C'est normal, c'est la matinale. Nous avons Mademoiselle Kangourouge au kilomètre 385. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez pour nous laisser une information.
Je vous appelais pour vous dire que oui, on a vu le monsieur ici.
Encore une fois.
Oui, encore une fois. Et c'était horrible. Il nous a fait tous très peur. Les enfants pleurent. On ne sait pas ce qu'il veut, en fait. Il nous a menacés, il a volé une pioche à Monsieur Mégane, et puis ensuite, il a commencé à mettre des grands coups dans le bitume. Il a failli blesser quelqu'un, d'ailleurs. Et voilà, on est très inquiets, tout le monde est sous le choc.
D'accord, merci Mademoiselle Kangourouge.
Je ne sais pas trop quoi faire de cette histoire, mon cher Grizzly. C'est
donc
un phénomène.
Résumé, apparemment, un homme un peu louche se baladerait dans l'embouteillage avec un vilain short, une jambe de bois.
Ouais, bedonnant, qui parle une drôle de langue, qui n'arrive pas à communiquer visiblement avec les habitants de la 747, qui sont pourtant pas réputés pour être de mauvais bougres ou trop fermés sur eux. Donc depuis le temps qu'ils sont dans le... Donc on ne sait pas trop ce que nous raconte cette histoire,
nous allons passer aux infos. Il y a un autre auditeur. Allô, oui, bonjour monsieur.
Oui, c'est Pierre.
Pierre, bonjour, comment ça va, Pierre?
Ça fait plaisir.
Bien, très 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 bien.
Bon, super. Et des nouvelles de Clio, comment va-t-elle?
Super, la grossesse se passe bien, merci.
Bon, donc, très bien, oui.
Je vous appelle, je voulais vous dire,
oui.
Le gars là,
oui.
Dont tout le monde parle là,
oui,
ici,
oui.
Là
ouais.
Le type dangereux avec sa sale jambe,
oui,
son
oui,
palpide,
oui.
Sa tête...
Oui, et bien,
il est chez nous.
Ah, mince, et alors, ça se passe pas bien?
On a creusé le bitume,
ouais.
Et puis, après le bitume, il y avait le béton, et puis on a creusé les gravats qu'il y avait en dessous, et au final, vous savez ce qu'on a trouvé?
Non.
De l'eau. De l'eau.
Vous avez trouvé de l'eau?
Oui,
d'accord.
Vous comprenez ce que ça veut dire?
Eh ben...
Oui.
Non, vous comprenez que l'eau nous appartient.
À la découverte de la source, l'eau coule en abondance, elle ne vaut plus rien et par conséquent le litre d'essence, la minute de communication, le paquet de gâteaux non plus et fin de la monnaie naissance du troc.
Après avoir appris la nouvelle, les représentants de chaque borne kilométrique se sont joints rapidement et ont décidé à l'unanimité 1.
Que l'eau devra se partager équitablement en fonction des premières nécessités. Pour cela, un important réseau d'alimentation doit immédiatement être mis en place. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 2.
C'est la première fois que les représentants des bandes kilométriques se retrouvaient. C'est une expérience à renouveler. qui peut permettre de consolider l'organisation de la ville sur la A747 dans les mois, les années à venir. Il est donc proposé et adopté à l'unanimité, encore une fois, la création du Conseil fédéral des bornes kilométriques. Il se réunira dès demain pour faire des propositions sur l'utilisation qui pourrait être faite de l'eau de la source.
Par ailleurs, le président des ministres à bord de son avion supersonique RR Force Force a réagi à cette annonce en rappelant que les risques sanitaires sont très élevés sur la A747, les conditions d'hygiène inadaptées. Il invite prestement tous ceux qui le peuvent à évacuer le plus rapidement possible l'autoroute à pied. Une prime pour le remboursement de leur véhicule leur sera versée.
Un embouteillage dont tout le monde ignore la cause, mais cela n'intéresse plus personne.
Des automobilistes devenus des habitants et qui ont tout oublié de là où devait les conduire la A747.
Naissance du Conseil fédéral des bornes kilométriques, la A747 cesse d'être une route pour tendre vers quoi ? Un village ? Une zone autonome ? Une utopie ?
La situation a définitivement échappé aux ministres. Paniqués, ils décampent en masse de l'Assemblée. Le président se retrouve seul.
Mais finalement, quand on y pense bien,
tout cela est bien normal.
La minute de Monsieur Gras qui ne l'est pas.
Le rêve en impasse aujourd'hui.
Un terrain dans le droit à construire, c'est à peu près 100 000 euros. Ça veut dire que le gars, un jeune couple qui a un salaire normal, s'il met déjà 100 000 euros dans la maison, dans le terrain, il lui reste en gros 50 000 ou 80 ou 100 000 à mettre dans la... Et donc plus on se rend compte que plus le foncier monte et plus on paupérise l'habitat. Et donc aujourd'hui, il y a ce processus où les gens sont obligés d'aller habiter aujourd'hui à 40-50 km, d'avoir deux voitures pour que parce qu'on a besoin des deux emplois où finalement ce mythe de la maison paupérise des familles, accélère les séparations, hein, très clairement, hein, je veux dire, il y a un marché de revente de la maison individuelle dans ces territoires où elles sont de très très mauvaise qualité. On n'a plus les moyens de se payer l'isolation thermique, donc on a des notes de chauffage considérables qui commencent à arriver. On n'arrive plus à entretenir les deux bagnoles, les parents s'engueulent, se séparent, etc., divorce, la maison est revendue, enfin le scénario, mais c'est on l'entend tous les jours raconté par les élus, hein, nous, sur la deuxième couronne de la région grenobloise, ou même la troisième couronne. Donc on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont fait l'expérience de ce mythe, hein, de la maison individuelle synonyme de bonheur, de tranquillité, d'épanouissement familial. Le rêve, il est un petit peu cabossé, quoi.
Merci Monsieur Gras, à bientôt.
¡Cámara!
C'est normal.